7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons du confiage des enfants. C'est une pratique qui a concerné tous les continents. En Afrique, il est encore largement admis que les enfants circulent et ne sont pas forcément éduqués par leurs seuls parents biologiques. Ils peuvent être confiés à des parents éloignés, plus aisés, qui vivent en ville. Alors, comment se construire loin de sa famille? Quel état civil, par exemple, aussi pour ses enfants? Les dérives d'enfants domestiques dans une famille d'accueil sont-elles marginales comparées aux solidarités familiales? Et quelles difficultés pour ceux qui élèvent des petits qui ne sont pas les leurs? Nous allons en discuter avec deux psychologues. Bonjour Ibrahima Giroud. Vous êtes de passage à Paris, vous travaillez pour l'UNICEF à Dakar. Bonjour Ferdinand Ezembe.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez l'association Axe Pluriel qui est basée à Paris et qui œuvre au dialogue interculturel. Vous avez publié il y a quelques années « L'enfant africain et ses univers ». Et quant à vous, les voisins et les voisines, on attend bien sûr vos témoignages. Si vous accueillez à la maison une fratrie très élargie ou si vous avez vous-même grandi et si vous avez été donc concerné par le confiage, si vous avez été confié dans une famille d'accueil, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp. Mais alors, ne laissez plus de messages maintenant que l'émission a commencé en direct. On va en diffuser déjà certains qui ont été postés depuis hier après-midi. Mais appelez-nous si possible en direct. Et on vous rappelle, bien évidemment, sur le téléphone fixe. Vous êtes très nombreux à avoir posté des témoignages audio, écrits. On attend maintenant vos appels en direct. Je vous lis quelques messages qui ont été postés. Bien sûr, vous pouvez les commenter, Ibrahima Giroud et Ferdinand Ezembe. En tout cas, ce sont des expériences qui témoignent de la diversité des situations. On a Gilbert qui est à Bafoussam au Cameroun et qui nous dit « Moi, je ne confierai jamais mes enfants. Mon grand frère et sa sœur jumelle ont été confiés à un couple de parents éloignés qui était très gentil. Lui était pasteur, mais leur fille de 14 ans était sadique. Et à chaque fois que les parents étaient en voyage, elle faisait voir de toutes les couleurs à mes frères et sœurs, âgés de 5 ans seulement à l'époque. Encore aujourd'hui, ils ont des cicatrices et c'est une très triste histoire. » Voilà, ça c'est l'histoire de Gilbert. Charles, à Beyrouth, au Liban, nous dit « Moi, je n'ai jamais été élevé dans un foyer par des parents chaleureux et heureux. Dès l'âge de 2 ans, j'ai été confié à des couvents. Dans le premier couvent, je dormais près d'une bonne sœur car j'avais peur du loup. Seul mon père venait me rendre visite et je savais qu'il allait repartir. Je m'accrochais à lui, donc je criais, je pleurais. Je suis allée dans une autre école où j'ai passé de bonnes années avec toujours des visites de mon père. Mais j'étais de moins en moins dépendant de cet attachement affectif. Et puis je suis tombée malade et mon père m'a envoyée dans une troisième école de village, cette fois à la montagne. J'ai connu déjà des attouchements sexuels, la faim, la solitude et les coups. » Voilà, ça c'est l'histoire de Charles au Liban. Et je voudrais aussi vous faire écouter le message d'un voisin qui a posté du Bénin sur WhatsApp.
« Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Moi c'est Ramdan Diankwata. Je vous appelle depuis le Bénin. Très petit déjà, mes parents ont décidé de m'envoyer chez ma tante à Parakou, à des kilomètres d'ici. Enfant, j'étais têtu. J'imagine ma vie. Si j'avais grandi au village, ça n'allait pas être bon pour moi. Chez elle, j'ai passé presque toute mon enfance. Elle m'a élevé, elle m'a éduqué, elle m'a nourri, elle m'a logé. Bref, elle a tout fait pour moi. Je me suis adapté difficilement, mais vraiment, ma tante m'a accueilli. Elle a des filles, uniquement que des filles. Donc j'étais, après papa, j'étais le seul garçon de la maison. C'est comme ça, quand papa voyage, je deviens papa de la maison, c'est moi qui donne des ordres, c'est moi qui dirige. Tout s'est bien passé, en tout cas j'ai fait 16 ans avec elle. Je rends grâce et je remercie ma maman, mes parents et aussi ma tante pour ce qu'elles ont tous fait pour moi. Ça a été une bonne expérience, ça a été une bonne vie. Sans ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. C'était après mon diplôme de baccalauréat, c'est après ce diplôme que je l'ai quitté. Parce que je suis technicien d'hygiène, je suis actuellement en train de me chercher quelque part où me mettre bien. Merci à vous.
Voilà, c'était le témoignage de Ramdam au Bénin. Je crois que le message est bien passé, de remerciement à sa tante. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Ibrahima Giroud et Ferdinand Ezembe, on l'a entendu, sont des expériences différentes qui montrent qu'il faut être prudent, qu'on ne peut pas généraliser. Comment, Ibrahima Giroud, déjà, comment est-ce qu'on doit comprendre la notion de parent sur le continent africain ?
C'est une excellente question, Emmanuel. La parenté est vraiment très large dans le continent africain. Ça dépasse très largement la définition au sens biologique et au sens nucléaire où ce serait juste papa, maman et les enfants, pour rentrer plus dans la sphère de compétences, avoir la capacité à avoir un rêve pour un enfant et de suivre ce rêve-là pas à pas jusqu'à ce que cet enfant grandisse. Et si cette aptitude est présente chez le grand frère, chez la grande sœur, il devient un parent. Si c'est présent chez la tante, chez l'oncle...
C'est ça, généralement les sœurs de la mère qu'on va appeler des mamans aussi.
Les sœurs de la mère sont systématiquement appelées maman, les frères du père sont appelés papa,
on appelle... Les voisins du quartier aussi. Oui.
Les voisins du quartier, voilà, ceux qui ont l'âge du papa.
Il y a tanti aussi, hein. Tanti, ça vraiment. Peut être très large. Hein.
Oui, c'est vraiment très large. En réalité, c'est une définition qui permet d'aller dans le concept de compétence. Il faut avoir les compétences pour éduquer un enfant. Si on a ça, on peut éduquer n'importe quel enfant. C'est ça que ça veut dire.
Donc, et quelles sont, Ferdinand Ezembe, les raisons ou les traditions qui expliquent le confiage, qu'il soit aussi répandu sur le continent africain?
Je voudrais commencer par un proverbe africain. Il dit « il faut un village pour élever un enfant ». C'est-à-dire qu'à la base, l'enfant appartient à une communauté et pas à des individus biologiques qui l'ont mis au monde. Et donc, au sein de cette communauté, on essaie de compenser les défauts des uns des autres par... On ne parle pas de confiance d'enfants, on parle du don des enfants. Don aux circulations des enfants et qui interviennent soit par amour, soit par amitié, ou alors tout simplement parce que bon, c'est une maman qui ne peut pas accoucher et comme il est inadmissible que ça ne puisse pas accoucher, on va rétablir cet équilibre.
C'est-à-dire des cas d'infertilité, par exemple.
Voilà, d'infertilité. On va donner un enfant à cette dame. J'ai une étudiante qui est allée au Cameroun faire un travail sur les relations mère-enfant. Et elle a fait un très bon mémoire sur une dame qui avait élevé 8 enfants. Et au moment où elle quittait le Cameroun, elle a posé la question à la dame, la veille de son départ, « Vous avez accouché combien de fois ?» Elle lui dit « Non, j'ai jamais accouché. » Alors elle était complètement déstructurée.
Et vous avez 8 enfants. Et
vous avez 8 enfants. Elle dit « Oui, ce sont les gens de ma famille qui m'ont donné ces enfants. » Donc c'est pour dire que cette dame qui était reconnue comme bonne dans le quartier avait beaucoup de compétences et elle a eu en reconnaissance dans son quartier, dans son village, des gens qui lui ont donné des enfants pour qu'elle puisse les élever.
Alors ça peut être aussi des enfants orphelins.
Ah oui, il y a des enfants orphelins, mais il ne faut pas voir le côté négatif aussi. Il y a des enfants, et c'est ce qui est intéressant en Afrique, c'est que les enfants peuvent choisir d'aller être élevés chez un membre de leur famille.
Parce que mais ça, à partir d'un certain âge.
Ah oui, mais vous savez, c'est très simple. Il faut qu'un enfant fréquente une famille régulièrement, il part chez son oncle, et puis au moment, il peut dire à son père, moi, je veux rester chez mon oncle. Et si l'oncle ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'enfant puisse rester là, il peut rester. Il y a les phénomènes d'homonymie, c'est-à-dire que l'enfant porte le même nom qu'une tante ou qu'un nom, ou même un ami du quartier. Et il peut dire, ben voilà, je vais habiter chez ce qu'on appelle au Cameroun mon homonyme. Et il peut aller là-bas.
Il y a des cas aussi où on va confier un enfant pour des stratégies d'alliance familiale, de renforcer des alliances, par exemple.
Oui, c'est exactement ça. C'est que dans l'idée de confiage, il y a l'idée de confiance. Donc, on a déjà réglé un certain nombre de choses, notamment, il y a des raisons de se méfier. Il y a de la méfiance, quand même, il faut le dire, parce qu'il y a des cas d'abus, les gens sont conscients de tout ça. Mais il y a quand même des arguments derrière et on a su construire une certaine confiance au point de confier ce qu'on a de plus cher, c'est notre enfant. Donc ça veut dire que c'est un univers en réalité. Au-delà des aspects visibles, il y a tout un univers immatériel, les valeurs que l'on partage ensemble qui font qu'on peut confier son enfant à quelqu'un. Et ça permet également de ressouder les liens familiaux aussi. Il y a une fonction très très importante que le confiage a joué, c'est que les liens familiaux sont resserrés. Si je donne mon enfant à quelqu'un de la famille, qui n'est pas nécessairement plus aisé que moi, mais juste pour lui montrer à quel point il est important à mes yeux, je prend ce que j'ai de plus important pour moi, je le lui confie.
Et vous disiez qu'il n'est pas nécessairement plus aisé, mais aujourd'hui quand même, on voit bien souvent des enfants qui sont confiés pour lui donner plus de chances, notamment en allant à la ville, pour avoir davantage accès à la scolarisation, par exemple, non ?
C'est une part très minoritaire de la circulation des enfants.
Vous voulez dire très minoritaire, la part qui part du village vers la ville en étant confiée à une famille d'accueil ?
Oui, c'est minoritaire parce qu'au sein même de la ville, il y a beaucoup d'échanges. Enfin, moi, je parle de circulation des enfants, c'est-à-dire que des parents qui sont aisés, mais tout simplement parce qu'ils travaillent dans une ville et que son fils fait une université dans une autre ville et que dans cette ville, il y a pas suffisamment d'espace. Mmh. Il va dire, tu vas habiter chez ton oncle ou chez un ami d'enfance.
Non, mais là, c'est plus du confiage là-bas. D'enfant, il s'agit d'un adulte s'il est à l'université.
Peut rester là-bas longtemps. Vous savez, quand même on parle d'enfants, parce que bon, les universités là-bas ne se considèrent pas comme des adultes. Moi, j'étais au Mali une fois, j'ai vu des gens de 21 ans qui se considéraient comme des enfants.
Oui, au grand désespoir des étudiants eux-mêmes, qui aimeraient bien être davantage entendus comme des adultes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
Mais ils profitent aussi de ce statut-là quand il faut avoir quelques gains. Ils disent, mais je suis ton enfant. Donc,
vous avez raison. Voilà. Et est-ce que la polygamie peut renforcer la mobilité des enfants?
Ça pourrait, mais de là à en faire une cause, c'est quand même autre chose. C'est qu'on a beaucoup pensé que la pauvreté a joué un rôle important. C'est certainement vrai dans certains cas, mais il faut voir que ce n'est pas un facteur de nivellement économique seulement. C'est plus, dans ces cas-là, c'est une redistribution de la pauvreté pour que la pauvreté soit supportée par tout le monde et non pas un nivellement économique comme si ça permettait à la famille de départ d'avoir plus de ressources. Parce qu'au final, elle n'a pas plus de ressources. Mais la polygamie pourrait évidemment jouer un rôle parce que dans le contexte de raréfaction des ressources, plus il y a d'enfants, plus il y a un défi évidemment à jouer un rôle. Mais ce n'est pas une cause telle qu'on pourrait l'entendre, une cause très claire de la mobilité des enfants.
Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il y a aussi des cas de mobilité des enfants, de confiage d'enfants qui ne viennent pas de familles pauvres ?
Oui, ça existe et c'est très étonnant. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai vu, notamment parmi les enfants que j'ai accueillis, parmi les familles que j'ai accueillies à Dakar, beaucoup d'enfants qui viennent des États-Unis, qui viennent de France, qui viennent d'Europe, parce que les parents ont beaucoup de difficultés à jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire
des
les valeurs.
Des enfants de la diaspora.
Dont
les parents sont des migrants.
Qui envoient de l'argent au Sénégal, qui envoient de l'argent au pays, donc qui vivent quand même relativement assez aisément, beaucoup plus aisément en tout cas que les familles auxquelles ils vont confier les enfants, mais simplement parce qu'ils pensent qu'ils sont en train d'échouer à développer les valeurs dans leur enfant, et ils pensent que ce serait beaucoup plus facile de développer ces valeurs-là une fois que les enfants sont au pays. Et c'est très étonnant de voir que ces enfants-là ont, dans beaucoup de cas, n'ont pas envie de retourner, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans un milieu où il y a moins de ressources, mais où les règles sont assez claires et que l'enfant est protégé, qu'il n'est pas violenté.
Oui, c'est aussi parfois brandi dans ces familles de la diaspora comme une menace. Hein. Si tu ne travailles pas à l'école, si on n'arrive pas à t'élever correctement dans ce nouvel univers, mais tu vas retourner, selon les cultures, on va dire, tu vas retourner au bled.
Oui, je peux dire que l'abondance de biens peut être une forme de maltraitance pour un enfant. Un enfant qui est dans un univers où tout est permis, il peut le ressentir très mal. Et j'ai une jeune fille que j'ai suivie récemment qui décide de rentrer au Cameroun faire ses études là-bas.
Donc à Paris, hein, une jeune fille à Paris.
À Paris, oui. Et qui veut rentrer au Cameroun faire ses études. Ses parents sont bien placés ici et ils ne comprenaient pas. Elle a dit, mais moi je suis plus à l'aise au Cameroun parce qu'elle est dans un cadre là-bas avec des règles, avec tout. Et qu'arrivée en France, elle était très très mal. Elle a dit, moi je veux rentrer au Cameroun. Elle habite chez un oncle là-bas qui s'occupe d'elle. Et elle dit, j'ai aucune envie de revenir ici en France alors que c'est une famille aisée. Et celle du Cameroun est nettement moins aisée que la famille d'ici en France. Quoi.
Alors bien sûr, vous nous appelez, quelle que soit votre situation, si vous êtes concerné par le confiage des enfants, 33 1 84 22 71 71. Je voudrais vous lire le message d'une voisine qui a posté de Cotonou, Dovi. Et voici ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, mais dans Les Misérables de Victor Hugo, Fantine ne confiait-elle pas sa fille Cosette à la famille Thénardier ? Confier son enfant à d'autres, c'est pas seulement fait en Afrique. Et quand on met les enfants en pension chez des religieux, est-ce que c'est pas la même chose à quelques nuances près ? Elle poursuit aussi en disant, le fait de confier un enfant n'est pas en soi le problème si la famille biologique n'a pas les moyens pour s'en occuper, mais c'est ce que fait la famille qui accueille, qu'il faut surveiller de près. Mon père a été élevé par sa tante comme son propre fils, et les familles d'accueil en France, est-ce que l'État qui se substitue aux familles, est-ce que c'est bien ? Ici, les familles font ce qu'elles peuvent, mais il faut les accompagner. L'État n'assure pas son rôle régalien. Qu'est-ce que vous pensez de ce message ?
C'est un message assez poignant et qui démontre très bien que dans l'idée de confiage, encore une fois, il y a l'idée d'un contrat. Il y a l'idée de confiance et qu'on pense que l'enfant va aller dans une famille où ses chances de se développer seront garanties. Et sa sécurité émotionnelle, sa sécurité physique et matérielle, ses chances d'aller étudier, tout ça, donc ses droits seront fondamentalement garantis. Et quand c'est garanti, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Parce qu'à côté, il y a des familles qui vivent avec leurs enfants et qui les maltraitent également. Donc, ce qui est important, c'est que l'enfant soit en sécurité là où il est. Et il y a également des enfants qui ne vivent avec aucun de leurs deux parents parce qu'il y a des enfants qui sont victimes du sida. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, il faut qu'ils soient pris en charge. Donc, ce qui est important, c'est que le milieu qui accueille l'enfant ait les compétences pour accueillir cet enfant-là.
On est bien d'accord que le confiage comble, même s'il y a des raisons culturelles, notamment sur les alliances familiales, etc., que vous avez expliqué, mais aujourd'hui, le confiage des enfants comble quand même essentiellement un manque de politique sociale des États.
Ah, je ne crois pas du tout, non, mais l'État ne remplace pas les parents. C'est la nuance que je voulais faire par rapport à ces témoignages. Les enfants qui sont confiés en France à des institutions ne sont pas confiés à des parents. Et quand on fait une formation, on dit justement à tous les travailleurs sociaux, vous n'êtes pas les parents de ces enfants. Donc, il y a une nuance énorme, alors que quand une famille africaine donne son enfant à un membre ou un ami, on dit, vous êtes ses parents. Moi, je suis psychologue, je m'occupe en France des enfants qui jamais ne m'appelleront, enfin, sauf ceux d'Afrique, qui viennent d'Afrique, m'appelleront tonton ou autre. Mais en Afrique, si j'interviens dans une famille, le premier réflexe de m'appeler tonton, parce que la relation sociale n'est pas conçue hors du contexte familial. Et c'est la grande nuance entre être dans une institution et être dans une famille. Et donc, on s'interroge d'ailleurs quelle est la pertinence des institutions en Afrique, de politique sociale, c'est de rester dans des familles, mettez les enfants dans des familles, pas des institutions. Les essais qui ont été faits, où on a créé des institutions, des orphelinats, ont été des échecs parce que ce n'est pas ça la demande sociale. On ne va pas reproduire en Afrique ce qui a été un échec ici en Occident.
Mais c'est très important que l'État, qui a quand même le devoir de garantir les intérêts supérieurs de l'enfant, soit plus regardant dans la façon dont les familles gèrent les enfants, mais surtout qu'à partir du moment où c'est une mission régalienne, quoi qu'on dise, de l'État, il faudrait que l'État puisse donner, que ce soit à travers les filets sociaux, que ce soit à travers les programmes sociaux de façon générale, il faut qu'on puisse équiper les parents à bien s'occuper de leurs enfants. Donc je pense que je suis d'accord avec Ferdinand quand il dit que la notion de parent, elle permet de ne pas poser l'État comme un enjeu, en tout cas dans les contextes africains. C'est la famille, c'est vraiment une grande famille qui prend en charge l'enfant. Et on n'a pas très bien réussi dans les initiatives institutionnelles pour prendre en charge les enfants. Ça n'a pas été une grande réussite non plus à Dakar, où moi j'ai vécu en centre Guindy. C'est très compliqué pour les agents qui sont là-bas de séparer l'idée de parents de leur rôle de travailleurs sociaux. C'est quasiment explosif pour eux. C'est un mélange qui a du mal à prendre parce que c'est tout le paramètre social dans lequel ils évoluent.
Sous-entendu, du coup, l'État a du mal aussi à trouver une place pour être dans le contrôle et la protection de l'enfant. Alors,
Oui, parce qu'il y a du génie à faire pour repenser la politique sociale en Afrique pour qu'elle ressemble à la sociologie africaine, certainement.
Bon, ben ça c'est un vaste programme. En tout cas, vous nous appelez les voisins et les voisines, on parle du confiage des enfants sur le continent africain, mais pas seulement, bien évidemment, parce que plusieurs auditeurs l'ont soulevé. D'ailleurs, on a eu des témoignages hors continent africain. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Bonjour. Je suis Noubadoum Djumoko Amiel. J'habite à Sarre, dans le Moinchari, au sud du Tchad. J'ai 5 enfants à ma charge, des enfants des parents proches. Certains de ces enfants m'ont été confiés pour des raisons scolaires et d'autres simplement par tradition. Et je ne me plains pas, il ne manque pas de nourriture et j'ai le plaisir comme ça d'avoir tout ce monde avec moi. Il y a certainement des difficultés quelquefois où ils tombent malades, où je vais réaliser quelque chose pour eux, que je n'ai pas d'argent, je fais un peu de soucis, mais ça va. Pour le fils de ma petite sœur, mon neveu là, je lui apporte quelquefois la chaleur qui lui manque quand il est malade, quand il se soucie un peu, toujours. Il se rappelle la famille, son père, sa mère, je lui apporte un peu de la chaleur. À chaque vacances là, je les envoie, je les force un peu hein, à repartir dans leur famille d'origine pour ne pas rompre le lien qui existe et apprendre à connaître leurs parents d'origine et surtout s'en occuper. C'est une bénédiction pour moi. J'ai hérité tout ça de mon père qui avait en son temps beaucoup d'enfants dans la cour et nous étions élevés comme ça. J'ai pris le goût et je ne me plains pas, je suis très content d'avoir ces enfants avec moi.
Voilà, une tradition qui se perpétue à condition bien sûr d'avoir les enfants, d'avoir les moyens. Hein. Amiel a 4 enfants biologiques plus 5 enfants confiés. Écoutez aussi le témoignage de ce voisin dans le nord du Mali, Ibrahim.
Bonjour tout le monde, moi c'est Ibrahim. Alors j'ai perdu ma maman à 7-8 ans. Et 7 ans, mon père nous a confié à sa sœur qui habite dans une petite ville. Et c'était l'été, 2 mois avant la rentrée scolaire. Et ces 2 mois, nous avons un peu de mal à vivre dans cette ville. Nous venons d'un campement. Et juste après, il y a eu la rentrée. Elle nous a scolarisés, mon frère et moi. Et là, dans la journée, tout allait bien. On est des enfants normaux comme les autres. Mais notre problème, c'est la nuit. Quand tous les enfants rejoignent leur maison, leurs papas, leurs mamans, nous sommes loin des nôtres. Et là, la nuit est très longue. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à s'habituer à ces nuits sans affection, sans nos parents, vraiment. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants d'ailleurs. Mais nous sommes restés comme ça plusieurs années, parce qu'après le primaire, le collège, le lycée, et après dans la vie, je suis devenu un enseignant. Et un enseignant qui a créé aussi un internat dans lequel vivent des enfants nomades qui quittent leur campement. Ils viennent pendant 9 mois à mon école et sont internés. Et là, tout ce qui m'a manqué pendant ma petite enfance où j'étais seul, j'essayais que ces enfants qui sont à ma charge ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. J'essaie que les soirées ne soient pas comme mes soirées d'antan. J'organise des rencontres de contes, j'organise des mises, j'ai joué à la guitare, j'organise des petites fêtes jusqu'à ce que le sommeil les prend tout de suite. Et le lendemain, c'est déjà une autre journée. Donc, ils ne subissent pas l'épreuve de la nuit que moi j'avais subie, qui m'a vraiment beaucoup impacté dans mon enfance.
Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix d'Ibrahim Agassarid qui a fondé l'École des Sables et qui a été plusieurs fois notre invité dans cette émission et qui nous a contacté quand il a vu l'annonce du sujet parce que il se sentait évidemment concerné. Enfant confié quand on devient à son tour, non pas quand on devient un parent d'accueil, aujourd'hui c'est quand même assez répandu. Est-ce que la famille d'accueil ou le parent d'accueil, est-ce qu'il peut ou elle peut dire non quand on lui demande d'accueillir un ou des enfants?
Ça dépend beaucoup de la personnalité du parent, mais il faut dire qu'à partir du moment où, en tout cas, si c'est pour des raisons économiques, il y a déjà du prestige, quelque part, il y a du prestige social à accueillir les enfants de la communauté. Donc, c'est très difficile de dire non. Parce qu'en disant non, on met fin à un long processus, on met fin à un rêve, on met fin à un espoir et on ne garantit plus du tout sa place dans la communauté.
Notamment un espoir de meilleure scolarisation.
La scolarisation, le bien-être de façon générale.
L'intégration sociale.
Oui, et augmenter les chances de cet enfant-là à réussir. Donc c'est très compliqué de dire non à tout ça. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Maintenant, c'est très important également, parce qu'il y a des parents qui savent dire non. Il faut bien le savoir. Il y en a qui disent non, parce qu'ils pensent que la place de l'enfant est avec ses parents quand ils sont vivants. Ça, c'est très important. Et que dans leur tête, l'école est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut faire dans quatre murs, tout simplement. L'école de la vie est beaucoup plus grande et que chacun peut évoluer avec, ce que les, avec les conditions objectives de son milieu.
Oui, les familles repèrent aussi les parasites sociaux, c'est-à-dire qu'ils renvoient aussi les personnes leurs responsabilités. Quand la famille analyse et que se rend compte que tu veux confier ton enfant juste pour t'en débarrasser, ils refusent. Mais quand ce sont des situations critiques où c'est un deuil, où c'est une invalidité, les gens ont une telle culpabilité qu'ils peuvent difficilement dire non.
Quelle relation avec le reste de la fratrie ?
Alors,
sans se voiler la face.
C'est quoi la fratrie ? Parce que moi, je vais vous dire une expérience personnelle. J'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup d'enfants qui étaient appelés par mes parents. Et on s'appelait tous frères. Et honnêtement, jamais je n'aurais fait la distinction biologique que lui, parce qu'il était accueilli par mon père, il n'est pas mon frère. Et les gens qui arrivaient chez nous ne distinguaient jamais qui était fils biologique ou fils confié ou accueilli chez nous. Et dans la majorité des familles, vous arrivez, on ne fait pas cette distinction. Moi, mes frères sont les gens qui ont grandi avec moi. Ce sont les gens du quartier qu'on appelle mon frère et tout ça, mais dans la vie quotidienne, cette distinction de fratrie, de frère biologique et de tout ça est très très récente et même pathogène maintenant.
Oui, parce qu'en réalité, le frère ou la sœur sont tous les deux pluriels. Et quand ils sont papa ou maman, c'est parce que c'est pluriel. C'est-à-dire qu'il faudrait plusieurs papas. Il y en a un qui peut être sévère, l'autre qui est plutôt tendre, l'autre qui peut créer le rêve, l'autre qui peut chanter aux enfants.
Ouais.
Et tout ça, c'est très nécessaire en réalité. On le sait, pour développer l'ensemble des facultés.
Mais alors du coup, vous nous expliquez que la jalousie est quelque chose de purement culturel. Qu'elle n'existerait qu'en Occident.
Non, c'est pas ça. Même entre ce qu'on appelle la fratrie biologique, il y a des jaloux. Mais la difficulté, c'est quand on transpose des concepts sur un autre univers, on ne parle plus de la même chose. Même entre ceux des frères dits biologiques, il y a de la jalousie. Mais ceux qu'on identifie comme frères, quand vous posez la question à un monsieur, c'est qui demande un chauffeur taxi au Cameroun, mais vous avez combien de frères ? Et le monsieur dit, je ne sais pas. Et ça a paru très bizarre à l'occidental. Il dit, mais je ne sais pas. Il a commencé à compter, il dit, je ne sais pas. Mais c'est tous ceux qui ont fréquenté sa maison, qui ont été élevés par ses parents, avec qui il a grandi, qui considéraient comme des frères.
De même que quand on demande à une personne combien elle a d'enfants, il serait plus judicieux de lui demander combien y a-t-il d'enfants dans son foyer.
Hein,
parce que quand elle va additionner et compter le nombre d'enfants, cette personne, le père ou la mère, elle ne va pas faire de distinction entre les enfants qui lui sont confiés et les enfants biologiques. Vous nous appelez les voisins et les voisines, on vous donne la parole au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Et on accueille Maddy qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Maddy.
Et bonjour Emmanuel, bonjour 7 milliards de voisins.
Eh bien soyez le bienvenu Maddy, vous avez 23 ans, vous êtes donc étudiant, vous êtes en licence de biologie végétale. Et vous avez été et vous êtes toujours un enfant confié, c'est bien cela ?
Oui, Emmanuel, je suis toujours un enfant pompier.
Expliquez-nous.
Mais l'enfant pompier, c'est vraiment une situation difficile à vivre, surtout en Afrique. Oui, moi j'ai été confié à une des tantes, j'ai quitté le village à l'âge de l'adolescence. J'ai arrivé, on m'a prôné tout le bien, soit disant que c'est la ville, j'aurais tout à ma disposition. Mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était le contraire. Puisque vous êtes toujours le premier à vous réveiller dans la maison, à faire tous les travaux. Étant donné que je ne sais même pas si je faisais les travaux des filles, les travaux que je n'avais jamais fait au village, je fais tout en ville. Vous voyez ? Et puis, il y a un traitement un peu délicat pour vous. Vous ne recevez pas les mêmes choses que les enfants de la maison. Vous voyez ? Et ça a été difficile à vivre. Et moi qui étais un élève si brillant au village, ça fait même que quand je suis arrivé, j'ai perdu. C'est-à-dire que de année en année, je ne fais que perdre un peu mes compétences.
Oui. Mais néanmoins, ouais. Aujourd'hui, vous êtes un étudiant à l'université.
Oui, aujourd'hui, je suis étudiant à l'université, mais il faut savoir qu'il faut faire le double de ce que les enfants font dans la maison afin de puisse arriver à un niveau. Mmh. Ouais. Certes, je connais bien mes compétences, mais étant donné que je suis à l'université, j'ai rencontré même certaines difficultés dans mes études. Mmh. Même tout dernièrement, l'année passée, j'étais obligé d'arrêter. Mmh. Parce que j'ai été touché psychologiquement par certains petits problèmes. Quelque chose peut se faire dans la maison, on trouve que c'est vous. Mmh. Moindre erreur, on trouve que c'est vous. Ouais. Parce que vous n'êtes même pas à l'aise.
Mmh. Ouais. Oui, il n'y a pas une bonne entente hein, avec vos parents d'accueil. Est-ce que vous en avez parlé à vos parents biologiques qui sont toujours en vie, Madi?
J'ai parlé à mes parents biologiques qui sont au village. Oui. Mais quand tu leur parles de ça, on trouve que c'est toi qui es l'objet de la distorsion de la femme.
Ah, d'accord. On vous dit c'est
donc
votre faute.
Ils ne veulent pas entendre parler. Mmh. Ils te disent que c'est du chaud ou bien c'est du froid, même si la tante peut te tuer, il a tout sur toi, quoi.
C'est ça.
Il peut faire tout de ce qu'il te veut.
Oui. Ouais. Bonjour Madi, quel est le lien avec ta famille d'accueil? Est-ce que c'est t'es chez ton oncle, ta tante?
Oui, c'est chez ma tante.
Chez ta tante.
La sœur oui. De votre maman?
La sœur de mon papa, ça.
Mm. Est-ce que tu as eu à discuter avec elle, à lui dire ce que tu vis, à lui faire comprendre ce que tu ressens?
Bon, la discussion, non. Elle ne vous donne même pas le temps.
Et tu n'as pas osé essayer?
Ah, mais s'il vous plaît, on ne vous donne pas. C'est le bonjour seulement, ça se passe. Et puis vous tous, vous avez vos tâches chaque jour dans la maison. Donc vous n'avez pas le temps pour discuter avec elle.
C'est ça, il n'y a pas de relation en fait. Ouais. C'est ça, si je comprends bien.
Il n'y a même pas
bien.
De relation, il n'a pas le temps. Soit tu as besoin de quelque chose, tu viens, tu demandes, on te donne et puis tu pars. Tu n'as pas besoin de dire que qu'est-ce que maman, telle. Non.
Ouais. Et au village, tout le monde vous renvoie cette image que vous êtes quelqu'un qui a de la chance.
Oui, c'est ça, c'est le paradoxe. Quand moi, je retourne au village pour les vacances, et les amis qui sont là, ils trouvent que non, moi, je suis heureux, je suis en ville.
Mais Madi, vous avez 23 ans aujourd'hui, pourquoi vous ne partez pas?
Bon, j'ai 23 ans, je dis pourquoi je ne pars pas, parce que je n'ai pas encore trouvé quelque chose, tout ce que je veux de moi-même. Donc, je trouve que il n'y a nulle part où aller.
Ouais.
Parce que quand je dis qu'il n'y a nulle part où aller, tout dernièrement, j'ai décidé de les quitter. Je suis allé au Burkina Faso. J'ai voulu même tenter l'Europe. Mais arrivé au Mali, j'ai eu certains problèmes. J'étais obligé de revenir.
Et puis, il y a vos études qui sont importantes. Ferdinand Ezembe, qu'est-ce qu'on peut dire à Madi? Parce que nulle part où aller, en même temps, il y a les études, en même temps, il est adulte. Comment faire face à son destin et puis laisser les souvenirs difficiles derrière soi?
Moi, paradoxalement, je dirais que ça fait partie aussi de la vie, les obstacles, la difficulté... Si vous êtes arrivé où vous êtes, vous êtes plutôt courageux et c'est positif. La vie est faite de plein d'embûches. On ne choisit pas toutes ces conditions dans lesquelles on va grandir et dans lesquelles on va vivre. Donc c'est un moment de votre vie qui vous endurcit, qui fera de vous quelqu'un de plus résilient dans le futur. Je pense que quand on n'a pas le choix, on développe des stratégies de résilience, quoi. Mmh.
Madi, comment ça se passera pour vos enfants? Vous en aurez?
En tout cas, moi, je ne vais jamais envoyer mon enfant, même à un de mes propres frères, jamais. Même si je n'ai pas les moyens. Puisque c'est ça le problème en Afrique. Dès que vos parents n'ont pas les moyens, on essaie de vous envoyer à quelque part.
Merci en tout cas de nous avoir téléphoné, Madi. On vous souhaite bon courage et surtout, ne lâchez pas les études. Hein. Licence de biologie végétale. Bravo à vous, malgré les difficultés. On accueille Sergio qui nous appelle de Ouagadougou, au Burkina. Bonjour Sergio, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Sergio, vous avez été placé...
Moi, j'appelle la chasse de mon voisin, qui vient d'appeler.
Oui, on vous écoute.
Je suis encore ami chez ma tante. Mais tout est en retard, les travaux ménagers, c'est plein comme ça. Tout est en retard à l'école. Tout est en retard, c'est des insultes que tu es nul, c'est le mari de ma tante, ça. Mais j'avais un cousin qui n'était pas traité de la même manière.
Oui.
J'avais un cousin qui n'était pas traité de la même manière. Donc, ça m'a fait que... Actuellement, j'ai 37 ans. Mais lancer dans la vie, c'est difficile pour moi.
Qu'est-ce qui est difficile? Vous avez commencé en disant « j'ai pas eu la chance du voisin qui vient de s'exprimer ». On lui-même a raconté que c'était très difficile. Aujourd'hui, vous vous sentez bloqué dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Sergio?
Oui, par exemple, actuellement, je suis couturier, mais si je veux me lancer dans les affaires, c'est difficile pour moi. J'ai souvent peur, quoi, puisque quand j'étais chez ma tante, on m'a pas donné le temps de m'exprimer.
Oui.
Donc, ça agit sur moi actuellement.
Vous n'avez pas confiance en vous-même?
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, Sergio?
Oui, j'ai pas confiance en moi actuellement.
Mais vous avez un enfant?
Oui, j'ai un enfant de 5 ans.
Vous l'élevez vous-même?
Oui, il est chez moi. Mais je ne souhaite pas ça pour lui.
Je pense qu'il faut voir aussi tous les aspects positifs de ce que vous avez réalisé. Je pense que souvent, en thérapie, les gens mettent beaucoup d'accent sur ce qui n'a pas été, sur ce qui vous a bloqué et tout ça. Et ils oublient tout le capital de réussite qu'ils ont en eux. Et tout ce que vous avez fait aujourd'hui est quand même excellent. Et vous pouvez vous baser sur ça pour avoir confiance en vous. Je suis couturier, j'ai un enfant, vraiment j'ai une femme, je vis. Et ce sont des réalisations que les gens ne mettent pas souvent en avant. Et ça les empêche de progresser parce qu'ils ne voient que le côté négatif des choses alors qu'ils ont réalisé des choses qui sont par ailleurs admirables.
Et puis vous vous exprimez à cette antenne aujourd'hui, ça aussi c'est une preuve de courage. Hein.
Ah ok.
Ah ben.
Non, vous avez réussi, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas là où vous pouvez faire des affaires, mais vous avez une vie de famille.
Mais j'ai pas mon propre atelier, je travaille avec un monsieur, vous voyez.
Oui.
J'ai pas mon propre atelier.
Oui, mais bon.
Mais vous travaillez?
On peut accomplir des choses dans la vie,
voilà,
sans être patron.
Vous avez un métier.
Je travaille avec un monsieur, j'ai pas évolué ça.
Oui.
Vous souhaiteriez vous-même avoir votre atelier, c'est ça, Sergio?
Voilà, c'est ça même. Oui, c'est ça.
Et vous estimez que l'enfance que vous avez eue ne vous a pas donné cette confiance, cette force pour réaliser ça?
Non. Exactement, c'est ça.
Oui, c'est
mais,
pas...
Mais non, mais vous avez, Sergio, une excellente opportunité avec cet enfant que vous avez, parce que certainement, je sais que vous n'avez pas du tout envie de lui faire vivre de le laisser vivre la même chose. C'est une excellente opportunité pour vous de changer votre quotidien en vivant avec cet enfant-là, et parce que c'est très important de ne pas lui donner l'image d'un papa. Vous n'avez pas envie de lui donner l'image d'un papa qui n'a pas confiance en lui. Donc vous avez au quotidien l'occasion de régler votre propre passé en jouant avec votre enfant, en lui montrant quelque chose de très positif, parce que vous n'avez pas du tout envie qu'il vous voie un peu faible, n'est-ce pas?
Exactement, c'est comme ça que je suis, c'est ça.
Bon. Sergio, on vous souhaite une très très bonne journée à Ouagadougou, et puis plus de confiance aussi pour l'avenir avec votre enfant. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On parle du confiage des enfants qui ne grandissent pas avec les parents. Souvent, ils ont quitté le village pour aller en ville, pour avoir accès aussi parfois à une meilleure scolarisation. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui peuvent confier, qui peuvent pousser des parents à confier leur enfant à une autre famille, à des parents plus ou moins proches ou éloignés. On accueille une voisine qui nous appelle de Bamako. Bonjour Solène.
Oui, bonjour.
Solène, vous êtes bien au Mali, hein, c'est ça? Vous êtes française, mariée à un Malien?
Oui, c'est ça. Je suis installée au Mali depuis plusieurs années, mariée à un Malien et avec des enfants biologiques et des enfants confiés.
Alors, il y a combien d'enfants dans la famille, alors, en tout?
C'est une bonne question. Il n'y a jamais le même nombre d'enfants.
Oui.
Parce qu'il y a des enfants qui ont été confiés, qui sont devenus adultes, qui sont partis et d'autres sont venus. On doit être à peu près à 9 enfants, mais il y a d'un coup un jeune adulte.
C'est ça. Il y a 4 enfants à vous et à votre mari, c'est ça?
C'est ça, 4 enfants biologiques. Un enfant qui a été confié jeune, au même âge que. Il a le même âge que mon aîné, donc il a été confié, il avait 7 ans. Et des autres ont été confiés un peu plus âgés. J'ai demandé justement d'avoir des plus âgés qui sont un peu plus, me considèrent un peu plus comme tutrices.
Oui.
Ou tantes.
Et donc ces enfants confiés, certains vous les avez eus plus âgés, donc forcément c'est pas la même relation qu'avec des enfants que vous avez portés ou que vous avez eus tout bébé.
Exactement, et surtout les enfants qui viennent un peu plus âgés, alors c'est pas non plus, c'est pas loupé très âgé, hein, c'est vers 12, 13, 14 ans, ils ont beaucoup plus eu de relations avec leurs parents. Et du coup, les parents, je trouve, pour moi, peuvent intervenir davantage. Et je me sens plus gênée d'intervenir au quotidien comme une maman,
c'est
avec
ça.
Peut-être moins de facilité à proximité.
Pour vous, même c'est si important. Ouverte, pour vous, c'est important que ces enfants-là gardent des liens avec les parents qui les ont élevés les premières années.
Bien sûr, parce que de toute façon, et ça c'est aussi quelque chose que je voulais aborder en tant que parent, et quand bien même dans un pays au Mali où le confiage est très courant, régulièrement on se trouve confronté au problème qu'on n'est pas le parent biologique, on ne va pas pouvoir le représenter, ou il y a certains actes de la vie administrative qu'on ne peut pas faire, parce qu'on n'a pas un papier qui donne la tutelle en bonne et due forme. Alors, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver.
Alors, justement, j'allais vous poser la question, parce que tout à l'heure, Ferdinand Ezembe, sa langue a fourché, il a dit enfant adopté, enfant confié. En réalité, ces enfants-là, chez vous, sur le plan juridique, quel est leur statut à Bamako?
Et ils n'ont pas de statut propre administratif. Si je me présente à une école, je peux me présenter comme la maman, il n'y a pas de souci, mais si j'ai besoin d'un document, je dois me retourner vers les parents biologiques. Alors j'ai un stock de papier chez moi, mais s'il y a des décisions importantes à prendre, ou des bourses, des choses qui appliquent une décision administrative, ça doit venir des parents biologiques. Et parfois, ça n'est pas facile.
Ça veut dire néanmoins que tous ces enfants qui sont confiés qui vous sont confiés à vous et à votre mari ont un état civil. Ils ont été déclarés à la naissance à l'état civil ou après, en tout cas.
Bien sûr, bien sûr. C'est peut-être aussi un fonctionnement qu'on a pris. C'est quelque chose qu'on a établi. Les enfants viennent avec un état civil ou bien l'état civil est constitué, et l'objectif est de pouvoir aussi les scolariser au maximum de leurs possibilités. Après, je trouve ça très très riche. C'est parfois difficile petit, parce que justement il y a le lien affectif qui se crée forcément.
Oui.
Et en même temps, parfois il faut expliquer que le traitement ne sera pas forcément égalitaire sur certains plans.
Oui.
Alors juste par exemple pour les vacances, on a toujours insisté pour que les enfants gardent le contact avec leurs parents biologiques, donc aillent passer des vacances chez leurs parents biologiques. Du coup, ça crée une différence. Mais arrivé à l'adolescence, je pense qu'ils se rendent compte que c'est une vraie richesse. À tout point de vue, que ce soit pour les enfants biologiques, pour les enfants confiés, ça élargit vraiment la famille et ça donne vraiment une palette d'éducation très variée.
Accepter une forme inévitable d'inégalité, finalement. Hein. C'est,
oui,
c'est ce
ça.
Que je retiens.
Exactement.
Merci,
exactement.
Merci beaucoup à vous, Solène, de nous avoir appelé. Juste quand même un mot sur la problématique de l'état civil, parce que beaucoup d'enfants, on le sait, sur le continent africain, ne sont pas déclarés à l'état civil. Est-ce que c'est un vrai problème pour ces enfants confiés qui circulent d'autant plus qu'ils n'ont pas été déclarés à l'état civil, et que est-ce que c'est pas aussi ça qui peut donner lieu à des dérives, Ibrahima Girou?
En fait, les enfants qui sont confiés ne sont pas plus face à des problèmes d'état civil comparés aux autres enfants. C'est très important de le savoir. Il y a certainement beaucoup plus d'enfants qui sont dans leur famille et qui n'ont pas d'état civil que les enfants qui ont été confiés. Ceci dit, quand vous allez dans une famille où on a un certain standard, une certaine façon de vivre, c'est clair que quand on accueille un enfant, on l'adopte d'une certaine façon et on fait tout pour que l'enfant ait accès à l'état civil. Donc tout dépend des standards de la famille d'accueil, l'importance qu'ils accordent à l'état civil ou pas.
Il faut quand même qu'on dise un mot de certaines dérives qui sont largement d'ailleurs pointées du doigt dans la presse sur le continent africain. Bien sûr, les enfants talibés qui sont confiés à un marabout ou à une dara, à une école coranique. Également aussi le cas d'enfants qui sont traités véritablement comme enfants domestiques. C'était un peu d'ailleurs ce que nous disait en filigrane le témoignage de Madi à Lomé. Néanmoins, ça ne l'a pas empêché de faire des études, même si ça a dû être très dur d'accéder à l'université. Mais il disait, je suis le premier levé, le dernier couché. Il y a des enfants qui sont sciemment confiés par des parents pour qu'ils soient domestiques dans une autre famille et qui parfois même ne savent même plus où résident, dans quel village ils sont nés, comment retrouver leur famille d'origine, Ferdinand Ezembe.
C'est le drame, on ne peut pas le nier, c'est une réalité d'éducation publique à faire, de protection de l'enfance par rapport à ces situations qui sont dramatiques en Afrique. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Il faut les condamner, il faut condamner ces pratiques, puisqu'il y a des trafics d'enfants quand même aussi, qui travaillent dans des champs et qui sont exploités par des gens sans scrupules. Et donc, ça, il faut les dénoncer, il faut que les États, par contre, là, oui, soient très, très durs par rapport à toutes ces dérives.
En effet, il y a eu un rapport en 2018 de l'ONG ENDA qui avait organisé le retour de 128 enfants dans leur famille, donc des enfants talibés du Sénégal, mais qui sont rentrés en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie, au Libéria, au Niger. On voit bien qu'effectivement, là, on était à l'échelle d'un trafic international. Mais globalement, aujourd'hui, que disent les rapports des ONG, des organisations internationales, Ibrahim Magirou, sur le phénomène du confiage, finalement? Est-ce que c'est dans une proportion importante des possibilités de dérive et de maltraitance des enfants?
Mais disons que c'est vraiment... Le problème, c'est dans le trafic des enfants, l'exploitation des enfants. J'ai moi-même travaillé avec des organisations internationales comme l'Office international des migrations et on a fait retourner des enfants jusqu'au Cameroun. Donc c'est un réseau assez sophistiqué avec des points de passage, des points d'accueil primaire et tout. Et 2 mois plus tard, on les a retrouvés à nouveau à Dakar parce que les parents touchaient de l'argent. Donc c'est un système assez complexe et vous allez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lien en réalité entre la famille et cet enfant. C'est très difficile de faire retourner l'enfant parce que le lien affectif entre lui et les parents, parfois il est définitivement rompu et c'est très difficile de le faire retourner dans sa famille d'accueil. Donc grosso modo, la situation des enfants confiée, elle est vraiment pas enviable. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut retenir. Et dans le contexte actuel, notamment en milieu urbain, c'est très compliqué.
Ouais. Et effectivement, en tout cas, assez complexe. Vous le disiez, Ferdinand SMB, en début d'émission, l'enfant circule, il est élevé par une communauté, mais c'est de moins en moins vrai, finalement, avec l'urbanisation, quand même.
C'est de plus en plus vrai.
Le quartier, c'est pas l'ancienne famille du village, c'est pas la même chose.
Oui, mais il y a du rural dans l'urbain. C'est Jean-Marc, qui est la sociologue, qui le dit. Il y a du rural dans l'urbain. Moi, chaque fois que je pars en Afrique, au Cameroun ou partout, je ne suis pas entré dans une seule maison où je n'ai vu que des enfants biologiques. Il y a toujours des nièces, il y a des cousins, il y a des gens du village qui sont là. Des gens qui, strictement, sur le modèle biologique de la famille nucléaire occidentale, ils représentent très peu de choses. Enfin, sur l'Afrique subsaharienne, je ne connais pas ailleurs, mais en Afrique noire où j'ai été, il y a toujours des gens qui... Je reviens du Sénégal, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation. Tous parlaient des enfants, des oncles, des nièces du village qu'ils accueillent chez eux pour faire des études à Dakar parce que, bon, l'année scolaire ne s'est pas bien terminée et qu'il faut prendre ses enfants ou de la sœur ou tout ça. Mais je ne sais pas si mon collègue a d'autres expériences.
Je vous lis en tout cas pour terminer 2 messages d'auditeurs. Vous avez été très nombreux à souhaiter vous exprimer et c'est toujours frustrant de ne pas vous donner davantage la parole. Rokia, qui est à Bamako, nous dit « Moi, j'ai gardé une petite fille, mais son papa a été jaloux de l'affection que je donnais à sa fille. Il l'a reprise au bout d'1 an. J'étais très attachée à elle et j'ai vécu une situation vraiment terrible. Moi-même, j'ai été une enfant confiée. Également, Cyré, qui est à Boissy-Saint-Léger, en région parisienne, nous dit « Moi, je me suis confiée moi-même à un préfet en Guinée, car mes parents étaient très pauvres et je voulais étudier et j'ai été très heureux de cette façon-là. » Voilà. Merci en tout cas à vous tous pour vos appels très nombreux, vos témoignages, de vous avoir exprimé aussi en direct. Parfois, ça fait remonter des souvenirs pas toujours très agréables. Hein. Les histoires sont très variées. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, Ferdinand Ezembe et Ibrahima Girou, c'est que, bien sûr qu'il faut veiller à l'état civil, bien sûr qu'il faut veiller à la scolarisation et puis peut-être aussi faire appliquer les lois en cas de maltraitance de la part des États, notamment du trafic d'enfants. Merci à tous les deux. Ibrahima Girou, vous êtes psychologue, vous travaillez pour l'UNICEF à Dakar. On va vous retrouver prochainement dans une série de chroniques chez 7 milliards de voisins sur la parentalité. Ferdinand Ezembe, l'association Axe Pluriel à Paris. Et vous avez publié L'enfant africain et ses univers. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des femmes surdouées ou à très haut potentiel intellectuel. Admiration ou méfiance, comment sont considérées ces femmes qui parfois dérangent? Comment font-elles carrière face aux hommes? Et bien sûr, vous aurez la parole comme chaque jour dans cette émission. C'est vous qui faites d'ailleurs l'émission. À demain.